Alors ce projet, effectivement, War Memory, donc, comme le rappelait Chiara, c'est un projet ponctuel qui s'inscrit dans un ensemble plus vaste. Hein. Et donc nous avons obtenu ce financement pour 2016-2017, donc c'est un petit peu vieux déjà, mais vous allez voir que ça tombe bien puisque voilà, on a déjà des résultats des livrables effectivement. Donc on va aller se promener un petit peu dans le Val-de-Loire et très peu dans le Poitou, et je vous ai mis évidemment grand classique, alors là c'est une carte postale bien sûr, avec vous savez un mécanisme, hein, on peut ouvrir la petite caméra et on a tous les châteaux de la Loire, et un extrait, c'est le dernier chapitre du Tour de France par deux enfants qui se termine, hein, les ruines de la guerre de 1870, bah, c'est entre Orléans et Châteaudun, là, le cœur du domaine royal. C'est là qu'on va reconstruire le pays après la débâcle, la première. Alors, d'abord, effectivement, comme l'a rappelé Chiara, le thème des mémoires des guerres, plus généralement d'ailleurs des lieux de mémoire, j'en dirai un mot si vous voulez tout à l'heure ou dans les échanges que nous aurons, est un axe très important, non seulement de l'équipe CEPOC, c'est-à-dire l'équipe contemporaine, hein, Aude en fait partie d'ailleurs, hein, formée, évidemment pluridisciplinaire, très MSH, hein, formée de littéraires, d'historiens du droit comme moi, mais plus largement des trois équipes de Pollen, hein, donc l'équipe Cesfima sur la fin du Moyen-Âge, et puis l'équipe Clarès également, des Lumières aux Restaurations. Et l'angle qui finalement s'est dégagé, alors surtout à cette époque-là, depuis 2010 à peu près, hein, on avait fait un colloque avec mon excellente amie donc Noéline Castagnier et avec Antoine Pro, je pense que tout le monde connaît, qui a été un pionnier dans l'historiographie française de l'étude de la Première Guerre mondiale et des anciens combattants, donc de la mémoire des guerres. Hein, cette thèse avait été publiée en 1978-17, pardon. Sur les anciens combattants, on avait fait un colloque, le moment 1940, partant de l'idée simple, mais qui s'est révélée, je crois, féconde, d'un double regard, c'est-à-dire par en haut et par en bas. Hein. On a fait aussi un ouvrage qui s'appelait la parole d'en haut, c'est-à-dire les grands événements nationaux, bien sûr, donc l'exode, le moment où il y a 12 millions de Français, plus les Belges, qui traversent nos chers ponts de Loire, hein, avant qu'il soit détruit d'ailleurs par les bombardements en 40 puis en 44. Bon. Le moment aussi des camps du Loiret, hein, de sinistre mémoire, de Jargeau, de Beaune-la-Rolande, de Pithiviers. Le moment aussi évidemment de l'effondrement de la République. Donc, comment un effondrement national, l'effondrement d'un régime, est ressenti en bas, non seulement par les officiels, hein, les rapports préfectoraux, etc., mais par les témoignages, les écrits du fort privé, la correspondance, les journaux, etc. Donc, première étape, c'était le moment 40. Et puis, ensuite, on a obtenu un appel à projet régional, hein, qui s'appelait LOCMEM, donc lieu de mémoire, tout simplement, hein, les lieux de mémoire en Centre-Val-de-Loire, en 2012, et toute une série, bien sûr, de colloques, de catalogues d'expositions, comme ici, hein, Souvenirs de la guerre en région Centre-Val-de-Loire, donc à l'hôtel du Banloup à Orléans, hein, et voyez, bien sûr, on remontait à notre chère Pucelle d'Orléans. Hein. Et ensuite, donc, voilà, je vous rappelle le projet, alors ça tombe bien puisqu'il est paru il y a quelques jours, en vente dans toutes les bonnes maisons de la presse, y compris à la gare de Tours, à la gare de Saint-Pierre-des-Corps, juste au-dessus de la Nouvelle République, c'est facile à trouver, pour le modeste prix de 19 euros. Ah ouais, cartonné et tout, avec 300 illustrations quand même. Hein. Bon, je touche pas de droit d'auteur, hein, je vous rassure. C'est pour les presses universitaires François Rabelais uniquement. Vive la coopération. Donc, les lieux de mémoire, ce projet, ça a été là aussi une idée très simple. Hein, comme quand le général de Gaulle se rendait dans l'Orient compliqué, hein, muni de quelques idées simples. C'est, est-ce que les lieux de mémoire de Nora, ça marche au niveau régional ? Bizarrement, je pense que d'autres y avaient pensé, bizarrement, ça n'avait jamais été mis en œuvre. Et je peux vous dire que ça marche. Hein. C'est-à-dire hein, ces lieux, ces unités significatives d'ordre matériel ou idéal, dont la volonté des hommes ou le travail du temps a fait un élément symbolique d'une quelconque communauté. Donc je vous rappelle, pour les lieux de mémoire au niveau national, ça va évidemment de la recherche du temps perdu de Proust, à la visite au grand écrivain, le Panthéon, le guide Johann ou le guide Michelin, etc. Et puis évidemment, les cathédrales, les châteaux de la Loire, la région, le département. Bon. Donc on a repris exactement cette grille, hein. On a été très, très discipliné, et on a sélectionné, c'est ça qui est le plus dur évidemment, hein. Parce que pour un éditeur, même aussi bon que Samuel Le Turc, hein, que je salue ici, presque 500 pages, c'est déjà beaucoup, 250 notices, mais vous divisez par le nombre de départements, hein, 6 départements en région centre, devenus Centre-Val-de-Loire en cours de projet, hein, on n'y a pas contribué, mais on en est ravis, ça fait que 40 par département, un petit peu plus. C'est très peu. Hein. Donc, c'est très frustrant. Hein. Donc, il y a beaucoup de manques. On fera un deuxième tome, bien sûr, et puis une actualisation. Bon. Pour donner, évidemment, quelques exemples, et puis, en cours de projet, bien sûr, on a arrêté la liste. Il est évident qu'aujourd'hui, par exemple, on rajouterait Jean Germain, hein, mort en cours de projet, si j'ose dire, Xavier Belin, le président du Césaire et de la FNSEA, etc., etc. Et puis, tout simplement, vous savez bien ce que c'est qu'un projet collectif qui a mobilisé 116 chercheurs. Il y a parfois des contributeurs dont on attend encore la contribution au bout de 5 ans. Bon, à un moment, on n'attend plus, quoi. Voilà. Donc, il y a des manques, bien sûr. Et enfin, dernière remarque sur le projet général. Deux remarques, peut-être. Un déséquilibre territorial. Là, évidemment, c'est plus facile dans des villes où il y a des universités, donc Orléans et Tours, de trouver des contributeurs savants. Donc Orléans et Tours, plus généralement le Loiret et l'Indre-et-Loire, sont bien servis. Hein. Beaucoup plus difficile en Eure-et-Loire. On a essayé quand même que le Berry ne soit pas trop maltraité. Bon, mais évidemment, c'est moins représenté. Et puis, tout simplement, l'histoire des deux villes d'Orléans et de Tours est peut-être aussi plus riche, hein, de personnages, de moments et de lieux. Dernier élément, et là j'en suis vraiment le plus désolé, et la remarque a été faite, hein, c'est pas une blague, la parité, là c'est difficile, hein, dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire que l'Église catholique n'a vraiment jamais respecté la parité pour les évêques, l'armée française non plus pour les généraux, et même la préfectorale que je connais bien, même les présidents de conseils régionaux, hein, pas un seul pour l'instant, en Centre-Val-de-Loire, hein, depuis l'origine, depuis Pierre Sudreau jusqu'à François Bonneau, que des hommes. Bon. Donc, évidemment, mais heureusement, parmi les contributeurs et contributrices, hein, il y a eu en gros 40% de collègues. Hein. Bonjour Camélia. Voilà, donc les 250, lieu, personnage, moment. Donc vous voyez que ça s'inscrit vraiment, voilà, on arrive enfin à War Memory pour vous montrer que c'était vraiment, hein, ça s'inscrivait dans une continuité depuis 2010, hein, dans les projets de Pollens époque. Et cher Aude, je n'ai pas rappelé Augustin Thierry, etc. Voilà. Donc, hein, il y a toute une série de colloques. Bien sûr, la participation, mais je pense qu'on n'est pas, enfin, on n'est pas les seuls, je le sais, très régulière au rendez-vous de l'histoire de Blois aussi, hein, qui sont sur ce fonctionnement. On est très concordance des temps, hein, à Pollens. Alors, l'idée, là aussi, assez simple, et je remercie à nouveau la MSH d'avoir soutenu ce projet. L'idée originelle était même plus ambitieuse que cela. Hein. J'ai regardé tout à l'heure sur ce petit instrument ce que j'avais envoyé comme projet. On ne l'a pas rempli, hein, tout simplement parce que c'était impossible. Alors, non pas simplement parce que le financement est très important, mais modeste, hein, mais simplement parce que c'était disproportionné par rapport au temps imparti. On avait pensé, donc, justement, dans la perspective du rapprochement, hein, des deux MSH avec celle, hein, de Poitiers, travailler avec nos collègues, c'est ce qu'on a fait, hein, Jérôme Grévy en particulier, donc, tous les collègues du CRIAM, hein, de Poitiers-Limoges, mais surtout, il se trouve que les collègues qui travaillaient sur ces questions-là étaient plus à Poitiers, hein, sur ces questions et sur le temps long des grands conflits franco-allemands, si vous voulez. Hein, la première vraie guerre industrielle, alors la première, en fait, c'est la Crimée, hein, c'est, vous savez, l'apparition de la Croix-Rouge, etc., et puis, évidemment, la guerre de sécession. Mais pour ce qui concerne ce que le général de Gaulle, hein, appelait la guerre de 30 ans, hein, 1914-1944, la nouvelle guerre de 30 ans franco-allemande, le point de départ, effectivement, c'est 1870. Vous savez qu'en ce moment, les historiens pratiquent beaucoup l'Uchronie ou l'histoire contrefactuelle. Ça fait quand même beaucoup plus savant, hein, l'Uchronie. Bon. C'est-à-dire, et si, simplement, hein, c'est ce que font tous les gamins quand ils jouent. Hein. Bon, et si on jouait au papa et à la maman ou à autre chose. Bon. Donc, et si la guerre franco-allemande de 1870 n'avait pas été déclenchée, bah, effectivement, le XXe siècle aurait sûrement été très différent. Et si, il y a un excellent bouquin comme ça, assez récent, hein, sur « Et si la bataille de la Marne n'avait pas eu lieu ?» Le miracle de la Marne, hein, en 1914. Donc, l'Allemagne gagne très vite la guerre de 14. Il n'y a pas 10 millions de morts, hein, effectivement, enfin 20 millions avec la grippe espagnole. Il n'y a probablement pas de la révolution russe, hein, la double révolution russe de 17, ni le fascisme, ni le nazisme. Voilà, le XXe siècle est un peu différent. Alors évidemment, hein, il y a des limites à ce type de raisonnement, mais c'est très fécond. Hein. Les anglo-saxons pratiquent beaucoup cela, et je crois qu'on s'y met enfin, et c'est vraiment très intéressant. Ça permet en tout cas de balayer... Je vais faire attention comme à mon verre d'eau. De balayer ce qui est le péché mortel en histoire, enfin le double péché, hein, c'est-à-dire l'histoire téléologique, voilà, c'était inéluctable, hein, ça s'est passé comme ça, voilà, et puis bien sûr l'anachronisme. Hein. Alors les partenaires, hein, et puis l'idée aussi, et je crois qu'on a été opportun là-dessus, puisque il y a eu récemment un comité éditorial, hein, des excellentes éditions des Purs à Rennes, donc, le 31 mai dernier, donc c'est pas vieux, qui vient justement d'accepter, hein, de publier le résultat, le principal résultat de ce projet, donc le colloque qu'on avait organisé à Orléans il y a exactement deux ans, hein, les 6 et 7 juin 2016. Donc l'idée, au niveau académique, les partenaires, essentiellement le CRIAM de Poitiers, et puis on a ajouté ensuite, même si ce n'était pas, hein, dans l'appel à projet, mais bien sûr ce n'était pas un appel exclusif, hein, le CERIO de l'université du Maine, hein, Le Mans-Laval, bon, en particulier parce que tout simplement il y a un excellent, le meilleur chercheur aujourd'hui, je peux le dire, même si c'est un ami, Stéphane Tison, sur 1870 et d'ailleurs sur 1914 aussi, travaille beaucoup sur les aspects psychiatriques en particulier, hein, les traumatismes de guerre, les sorties de guerre et ce que ça peut comporter. Enfin, imaginez pour la Grande Guerre, il y a de quoi faire. Donc il y a beaucoup de travaux aujourd'hui pluridisciplinaires. J'y pensais tout à l'heure quand nous écoutions le brillant exposé de notre collègue avec les médecins, hein, et les psychiatres. Il y a même un laboratoire à l'université de Picardie, Jules Verne, hein, qui vraiment met en commun, hein, les historiens de la Grande Guerre et les chirurgiens, en particulier chirurgie faciale. Les gueules cassées, quoi. Voilà. Donc, partenaires non académiques, bon, ça c'est assez classique, hein, je vais vite là-dessus, mais là, bien sûr, ça s'imposait, en particulier parce que le musée de Loigny-la-Bataille, hein, juste à la limite de l'Eure-et-Loir et du Loiret, était en phase de reconstruction, parce que, bon, c'était, si vous voulez, un musée très vieillot, hein, qui a été très bien refait, qui est réouvert maintenant. Et puis, bien sûr, le musée de l'armée à Paris, hein, qui, là aussi, s'est vraiment transformé récemment. Et puis, bien sûr, les archives départementales et le souvenir français, qui est l'association qui a été créée suite à la guerre de 1870. Le colloque que nous avons mis en place, donc pour... Alors, peut-être un mot, puisque, évidemment, hein, nul n'est censé être historien. Dans l'historiographie récente, 1870 a pratiquement disparu, comme d'ailleurs dans les mémoires de nos contemporains, hein, parce que ça a été, en quelque sorte, recouvert, un peu comme une couche sédimentaire, par 1914 et par 1940-45. Et pourtant, par exemple, l'occupation, hein, prussienne ou bavaroise, il y a eu les deux dans notre région, dans les départements qui ont formé notre région, a été très dure. Il y a par exemple un préfet à Orléans, hein, qui est incarcéré et qui est déporté en Prusse, qui meurt déporté en Prusse. Enfin voilà, c'est des choses qu'on associe, ce type de répression, à la Seconde Guerre mondiale, ou dans certains départements, je pense surtout à ceux du Nord-Pas-de-Calais, ou de l'Est, à la Première Guerre mondiale aussi. Hein. Mais pas, enfin, plus à la guerre de 70, qui est, comment dire, qui est maintenant, que évidemment les témoins ont disparu depuis très longtemps. Moi qui suis, qui ai le privilège de l'âge, je me souviens en 1970, même si j'étais très jeune, pour le centenaire, hein, 1870, il y avait encore des gens qui, indirectement, avaient connu des témoins. Hein, vous savez comment ça fonctionne, voilà. Donc, maintenant, c'est vraiment de l'histoire froide, comme on dit. Hein, comme 1914 l'est devenu, par exemple, pour nos enfants. Hein, et comme la Seconde Guerre mondiale va le devenir bientôt, puisque les derniers témoins parlent encore. Donc l'idée était simple, là aussi, de dire, c'est bizarre, 1870, la mémoire nationale a quasiment disparu. Il n'y a plus de commémoration, il n'y a plus de politique mémorielle officielle par rapport à 1870, hein, parce que les enjeux du conflit, hein, apparaissent aussi très obscurs, la dépêche d'Ems, de la provocation de Bismarck, etc. Le Second Empire lui-même a longtemps été un peu occulté. Il est ressorti, alors c'est peut-être ça le point de départ, le Second Empire dans l'historiographie française a été réévalué depuis une vingtaine d'années. Alors même au point de vue médiatique, hein, peut-être certains se rappellent que Philippe Séguin, président de l'Assemblée nationale, avait consacré une biographie à Napoléon III, hein, pour, alors on voit bien, hein, le gaullisme héritier du césarisme ou du bonapartisme, voilà, l'autorité, le patriotisme, la politique industrielle, voilà. Donc tout cela a permis de redécouvrir cette période, et puis notre pari, c'est que avec le 150e donc de 2020, il va y avoir une recrudescence des travaux et des publications, donc on voulait anticiper, hein, être en amont de cela, et pour en avoir discuté avec beaucoup d'éditeurs, locaux ou nationaux, c'est une réalité. Et puis ce qui nous avait frappé, alors là c'est surtout, et je dois lui rendre hommage, c'est Stéphane Tison, hein, donc de l'Université du Maine, qui m'avait fait remarquer cela, il y a beaucoup, avec Internet, beaucoup de sites, beaucoup de blogs, beaucoup de reconstitutions historiques aussi. Vous savez, les gens qui, le dimanche, se mettent en uniforme de zouave, etc. C'est assez étonnant. Hein, vous pourrez aller regarder. Voilà. Donc, 1870 est pratiquement effacé des mémoires nationales. Ou, et vous allez voir, c'était l'un de nos thèmes aussi, hein, des manuels scolaires, par exemple. Hein. Seule chose qui reste, donc un excellent collègue avec lequel je travaille, jeune collègue, Walter Badier, hein, qui est de l'ESPE Centre-Val-de-Loire, travaille principalement à Orléans, mais dans toutes les villes où se situe l'ESPE, a travaillé sur les manuels scolaires et les programmes scolaires, la façon de traiter 1870. Aujourd'hui, ça a pratiquement complètement disparu, aussi bien du primaire que du collège ou du lycée, sauf Gambetta et son ballon, éventuellement. Hein, quand il reste quelque chose, c'est voilà, Gambetta partant en ballon de Paris à Tours, comme peut-être certains d'entre vous ce matin. Mais les ballons ont un avantage, c'est qu'ils sont moins souvent en grève, comme les pigeons, d'ailleurs. Enfin, parfois, les pigeons, c'est les utilisateurs du service public ferroviaire. Les axes du colloque, donc, on avait essayé, hein, de structurer justement cela dans une perspective évidemment pluridisciplinaire, hein, et également, donc, rétrospective, bien sûr, les traces. Les traces locales, c'est ça qui nous avait frappé. Au niveau local, au niveau régional, la mémoire est encore vive. Donc, des musées sur les champs de bataille, mais aussi, et j'avoue que j'ai vraiment découvert cela, hein, on a essayé d'avoir une typologie des départements français. On a eu, par exemple, une communication, donc qui sera bientôt publiée, sur la mémoire de 1870 à La Réunion. A priori, c'est vrai que je n'aurais pas pensé, mais un collègue a proposé, hein, et une belle contribution là-dessus, tout simplement, bah, les conscrits, hein, qui viennent faire la guerre. Et puis, il y a eu aussi une héroïne, hein, originaire de La Réunion, et qui était une postière, qui a résisté à l'occupation allemande, pas de La Réunion, bien sûr, mais dans un autre département français. Donc, hein, comment le conflit a été ressenti, puis l'occupation, hein, prussienne, qui dure jusqu'en 1873, hein, jusqu'au fameux paiement des 5 milliards de francs or par le gouvernement d'Adolphe Thiers. Paiement qui est très rapide parce que la France s'était beaucoup enrichie sous le Second Empire, hein, du fait de l'industrialisation. Donc, est-ce que les traces sont différentes suivant que vous êtes à Loigny-la-Bataille, à Orléans? Alors, quelques mots sur Orléans. Bon, bien sûr, Tours, il y a une mémoire. Et d'ailleurs, il y a un article de Jean Garrigue dans ce dictionnaire sur Tours capitale. Hein, puisque, bon, en général, ça va mal. Hein, quand Tours, puis Bordeaux, quand c'est Bordeaux, c'est encore pire. Hein, bon, c'est mauvais signe en général. Hein, bon, c'est que Paris, évidemment, est très menacé. Et puis à Orléans, Bon, moi, il se trouve que je suis né à côté d'un monument aux morts. Hein, je vous rassure, ça m'a pas traumatisé. C'est pas la cause de mon addiction à l'histoire. Où, en une matinée, il y a eu 300 morts. Hein. Le monument aux morts des Z, la limite entre Orléans, Fleury-les-Aubrais et Saran, au nord d'Orléans, il y a une bataille épouvantable et qui décide du sort de Paris. Hein, parce que bah, l'armée de la Loire, de Chanzy, il y avait un espoir qu'elle puisse débloquer le siège prussien de Paris et une défaite, Orléans n'étant pas libéré, hein, n'est plus en 1429, eh bien, tous les espoirs tombent. Hein. Donc, c'était le premier axe. Hein. Un deuxième axe plutôt sur les politiques, hein, donc la mémoire officielle, hein, portée, donc les manuels scolaires, je vous en ai parlé, les guides touristiques. Hein. Alors là, c'est une géographe que certains connaissent ici, hein, du laboratoire CEDET d'Orléans, Christine Romero, hein, qui travaille, alors d'une manière récurrente, ça qui est intéressante, elle avait déjà travaillé sur justement les lieux de mémoire, sur la mémoire des guerres globalement, hein, dans le tourisme, ce qu'on appelle les chemins de la mémoire, hein, ou le tourisme, disons, historique, et qui est très riche dans notre région, comme vous le savez. Et là, elle a centré la focale sur 1870, et en particulier sur le musée de Loigny, la bataille, pas seulement. Bon. Et puis, deux interventions, et donc qui seront bientôt publiées, ont porté sur les politiques muséales, donc au niveau de l'État, hein, hier et aujourd'hui, donc dans les lendemains de la guerre de 1870, hein, et puis comment cela rejoue cette politique à mesure des guerres franco-allemandes. Je vais vite sur le troisième point, puisque je pense qu'il est peut-être plus, mais sinon on y reviendra, il est peut-être plus familier à certains d'entre vous. Bon, tout ce qui est le fort privé, hein, c'est-à-dire les témoignages, soit immédiats, soit retravaillés, hein, les éphémérides, hein, vous avez ici... trouver ça dans un marché opus, hein, comme parfois il faut trouver. Donc c'est Orléans, hein, derrière, hein, c'est la Loire et la cathédrale d'Orléans. Donc vous voyez ce soldat volontaire de l'armée de la Loire, hein, en 1870. Hein. Donc il y a beaucoup de récits. Hein, alors il n'y a pas eu encore, et peut-être que 2020 le permettra, l'équivalent de la grande collecte. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, hein. C'est-à-dire qu'à partir de 2014, les archives départementales et nationales, surtout au niveau départemental, ça a été très important, ont lancé partout en France ce qu'on appelait la grande collecte, c'est-à-dire pratiquement tout le monde a dans un grenier, alors on n'a pas tous des greniers, mais dans les maisons de famille, chez les grands-mères ou arrière-grands-mères, voilà, un journal, des correspondances, que ça soit d'ailleurs... Je trouve que je participe dans 10 jours à Montpellier à un grand colloque terminal, hein, sur la Grande Guerre et sur les gens ordinaires. Hein. Bien sûr, les lettres de la bourgeoisie française, disons, en 1870 ou en 1914-18, sont beaucoup plus détaillées, parlent de lecture, parlent des événements politiques ou internationaux, ce que ne font pas les gens ordinaires, entre guillemets, hein, le poilu de base qui a juste, qui n'a même pas eu son certificat d'études, et qui va écrire un peu en texto, hein, c'est-à-dire il va sur une carte postale mettre « je vais bien », gros baiser, machin. Bon. Mais voilà, et donc il y a un travail qui se fait aussi sur les différentes formes, bien sûr, d'écriture. Hein. Alors, sur le texto, juste un mot, hein, parce que moi ça m'a beaucoup frappé, j'ai publié 5 ouvrages sur de recueil, hein, de correspondance sur la Première Guerre mondiale, dans une famille très aisée, hein, des ingénieurs des ponts et chaussées, etc., proche de l'entourage de Clémenceau. Mais parfois, il y a des lettres courtes aussi. Et j'aime beaucoup la formule, hein, la mère de famille qui écrit à ses 4 fils qui sont au front, alors écrit « Aujourd'hui, je t'écris court ». Donc c'est le texto, exactement, hein, c'est-à-dire 2-3 phrases. Hein. Et puis, il y a des lettres qui font 4 pages. Hein. Donc, les récits du fort privé, et voir aussi... Parce que parfois, hein, les journaux sont recomposés, hein, a posteriori. Et ce qui est très intéressant, c'est que parfois, ils ont été, rédigés ou recomposés à la lumière de 1914. Donc là, on est dans les rejets de mémoire. Les représentations artistiques et littéraires, là aussi, je vais vite. Hein, il y avait bien sûr Peggy, Géraldine Leroy, hein, qui est décédée depuis. Les représentations artistiques, notre collègue Anne Delouis fait un très beau travail sur la représentation par la peinture allemande de la guerre et de l'occupation de la France. Vous verrez sur moi je la mets tout de suite, sur la dernière drapeau, là, sur la dernière diapo, pardon, pas très net, excusez-moi, c'est la place du Martroi à Orléans, au moment de l'arrivée des troupes prussiennes et bavaroises. Je termine rapidement, je vous rassure. Le dernier point, donc, classique là aussi, les regards croisés, alors c'est un peu une formule passe-passe, mais là, ça s'imposait, non seulement... le regard de l'ennemi, si vous voulez. Comment on bestialise des deux côtés. C'est-à-dire que les Allemands qui arrivent à Orléans ou à Tours disent, bon, comme les Américains en 1944, bon, les Français, ils puent, ils pourraient se laver quand même des fois. Et puis, réciproquement, l'Allemand, c'est le cochon, etc., dans tous les sens du terme, y compris addiction sexuelle, les viols, etc. Le crime allemand par excellence, comme on commence à l'écrire en 1970, la formule resserre en 1914. Et par exemple, moi, je vais publier à la fin de l'année là, une correspondance du siège de Paris, les hommes adultes restent à Paris, les femmes et les jeunes enfants sont envoyés soit dans l'Ouest, parce qu'on se dit quand même le temps que les Prussiens y arrivent, que les Uhlans y arrivent, donc à Angers, au Mans, etc. Et puis certains aussi, bon, c'est une famille plutôt du nord-est de la France, envoient carrément à Ostende, déjà station balnéaire et cercle de jeu, etc. Et c'est très frappant, cette diabolisation de l'ennemi, de l'envahisseur, de l'occupant. Et ça annonce tout à fait l'aspect, vous savez, le discours de Clémenceau à l'armistice en 1918, la France, soldat de l'idéal et soldat du droit. Enfin, donc dernier point, donc sur les regards croisés, ce qui a été sans doute le plus original, c'est qu'on a essayé aussi d'associer, si j'ose dire, le regard des neutres. Et il y en a beaucoup, alors les neutres entre guillemets, par exemple les Danois. Ils ne sont pas tout à fait neutres. Ils sont plutôt francophiles au début de la guerre, parce qu'ils ont subi aussi, avec l'annexion du Schleswig et du Holstein, peu de temps avant, la dynamique agressive du jeune État prussien. En Amérique latine aussi. Bon, c'est pareil, j'ignorais tout à fait, j'étais très ignorant là-dessus, le fait que la guerre franco-prussienne avait passionné aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc. Et puis, les rejeux de mémoire, donc là, par exemple, François Roth, alors je disais tout à l'heure que c'était une sorte de point noir de l'historiographie française, 1870, enfin que ça avait disparu. Et il y a deux historiens contemporains, enfin, il n'y en a plus qu'un, puisque l'autre est mort... 3 jours avant le colloque, il devait intervenir, François Roth, eh oui, mais on a récupéré ses notes. Et donc j'ai retranscrit dans une sorte de postface ces notes pour rendre hommage à François Roth, professeur à l'Université de Nancy, et très longtemps le seul spécialiste la guerre franco-prussienne. Et puis l'autre est mieux connu, et parce qu'il a commencé sur la guerre de 70 avant de s'intéresser à 1914. Le mouvement est intéressant. Je crois qu'on va avoir le mouvement inverse bientôt. C'est-à-dire tous ceux qui ont participé au centenaire de la Grande Guerre vont aller voir avant les prémices et les racines de la culture de guerre, de la brutalisation, etc. Stéphane Audouin-Rousseau, il a commencé par travailler sur Mémorial de Péronne, etc., sur la guerre de 70. Enfin, voilà, la dernière. Bon, l'avant-dernière. Les livrables. Donc, je vais vite, puisque j'en ai déjà parlé. Le colloque, les trois publications. Une publication, La République au défi de la guerre, Lettres et carnets de l'année terrible, avec une préface de Jean-Noël Jeannet sur, justement, écrit du fort privé, carnet de guerre et correspondance. Ballon monté, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, une correspondance conjugale, doublement conjugale si j'ose dire, de les deux beaux-frères qui restent à Paris, et les deux femmes qui sont à Ostende, donc qui va être publié aux éditions du CERF en décembre 2018. Et puis, donc l'ouvrage aux presses universitaires de Rennes que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui rassemble les interventions du colloque, Se souvenir de la guerre de 70, donc entre l'oubli national et les mémoires régionales. Enfin, les prolongements possibles. Hein. Donc il y a eu, mais je répondrai à vos questions si vous le souhaitez, hein, le dépôt d'un projet, alors je ne sais pas pourquoi il y a un 2 supplémentaire qui s'est glissé, c'est pas, c'est 2020, hein, c'est H2020, hein. Trouble Past, c'est ça qui m'a dû me troubler, hein, donc avec un certain nombre d'universités européennes, avec une certaine frustration, puisqu'on a obtenu la note de 14 sur 15 et on a été classé premier ex aequo, et pour des raisons qui n'appartiennent, je pense, qu'à la technocratie bruxelloise, premier ex aequo, mais sans financement, puisqu'un seul projet était financé à 2 millions d'euros. Donc c'est 2 millions ou la valise ou le cercueil. Bon, là c'était le cercueil, mais on a quand même survécu. Donc, des montants évidemment un peu différents de la MSH, mais voilà. Projet d'ouvrage et de colloque, pour terminer. On est en train de monter donc à Pollens-Sepoc, avec également le comité d'histoire parlementaire et politique, hein, présidé par Jean Garrigue, qui dirige aussi Sepoc. La décennie décisive pour la République, hein, celle donc qui commence avec l'Empire, le Second Empire libéral, hein, mais il y a des républicains sous l'Empire. 69-79, hein, la République rentre enfin au port, suivant l'expression de François Furet, mais ça met longtemps. Hein. Il y a toute une période d'incertitude. Donc, colloque qui aura lieu dans un peu plus d'un an au Sénat. Un ouvrage qu'on prépare également avec le collègue que j'évoquais tout à l'heure, Walter Badier, sur Gambetta, évidemment au centre de l'imagerie de la guerre de 70. C'est pour ça que je vous ai mis les petits ballons. Et un projet de colloque avec Stéphane Tison, mais qui cette fois aurait lieu au Mans, hein, puisque le premier a eu lieu à Orléans grâce à la MSH, l'année terrible, mais là, vraiment avec le pari de uniquement vu d'ailleurs, c'est-à-dire on met la France et l'Allemagne de côté, uniquement un regard international, donc pour repenser à distance la guerre franco-prussienne. Merci beaucoup. C'est de ma faute.
Quelques questions.
Oui. Moi, j'ai une question sur les traces locales.
Oui.
Pour 1870. Comment est-ce que vous arrivez à les détecter? C'est-à-dire, je pense que vous avez dit, il y a eu deux guerres après. Est-ce que vous avez des informations précises de communes
Alors, oui, c'est vrai que j'ai pas du tout développé ça, mais comme j'ai déjà été trop long. Il y a d'abord les traces, comment dire, les plus évidentes, traces archivistiques, bien sûr, la presse locale, hein, et, on l'oublie souvent, les monuments aux morts. Beaucoup de monuments aux morts, en particulier dans notre région, mais aussi évidemment dans l'Est, hein, bien sûr. Parmi les premiers monuments aux morts, c'est après 1870. Alors, avec une... Je ne vais pas rentrer dans la chronologie, hein, mais par exemple, à la veille de la guerre de 14, il y en a beaucoup qui se construisent. Donc, longtemps après la guerre, mais dans un moment de tension avec l'Allemagne. Hein. Donc là, il y a effectivement des traces. Il y a énormément d'ouvrages. J'ai dit tout à l'heure que la guerre franco-prussienne était un petit peu un soleil mort. Mais après 1870, à peu près jusqu'en 1880, la première décennie, hein, il y a énormément de témoignages qui sont publiés par les acteurs. Hein. Non seulement, évidemment, les généraux, les ministres, comme Émile Ollivier, par exemple, hein, le dernier premier ministre, président du Conseil, hein, de Napoléon III, mais aussi par des acteurs beaucoup plus modestes. Et puis, il y a des traces très matérielles, si j'ose dire, par exemple au musée de Loigny-la-Bataille, mais aussi au musée de l'armée, tout simplement des uniformes, des fusils, pas en état de marche, j'espère, hein, aux États-Unis, etc. etc. Hein, donc il y a énormément de traces, et puis aujourd'hui, qui sont effectivement revivifiées par Internet, et par le mouvement associatif. Ça, c'est vraiment très, très frappant, alors que l'État, aujourd'hui, n'a plus du tout n'a pas une volonté mémorielle par rapport à 1870. Ça va revenir avec 2020, mais. Oui,
un jour, il faudrait peut-être que dans ces pays, on pense aussi au lieu de mémoire d'une autre guerre qu'on appelait pas guerre, c'est la guerre d'Algérie, non?
Ah, bien sûr.
Moi, j'ai découvert ici l'expression fait d'Algérie. Je dis, c'est quoi les faits d'Algérie? C'est une guerre. Mais ça aussi, peut-être, ça pourrait être après 2020, mais un jour ou l'autre, oui. Il faudrait que quelqu'un s'y attache parce que. Peut-être qu'il y a aussi des lieux de mémoire.
Alors,
occultés ici, aussi, on pourrait aussi étudier les manuels scolaires sur la question. Très intéressé.
Tu as tout à fait raison. Alors juste, j'avais oublié de dire une chose. Il y a aussi tout ce qui est, il y avait une intervention par exemple sur, bien sûr, Garibaldi, 1870, évidemment. Alors sur la guerre d'Algérie, c'est une question très compliquée, mais je vais essayer d'y répondre de manière brève. On croit qu'il n'y a rien sur la guerre d'Algérie, c'est complètement faux. On dit souvent, contrairement aux États-Unis qui ont vraiment affronté leur traumatisme vietnamien, etc., il n'y a pas de film en France. C'est complètement faux. Il y a au contraire, pléthore. Alors peut-être que ça n'a pas rencontré le succès, pas encore, ou rencontré, disons, une volonté effectivement de l'État de financer, etc., mais il y a quand même beaucoup de choses. Je participais il y a 15 jours à un colloque sur le procès Maurice Papon, les 20 ans du procès Maurice Papon à Bordeaux. Évidemment, il y avait deux interventions sur le rôle de Maurice Papon, aussi important et aussi dramatique qu'en 1942 pour déporter des Juifs à Bordeaux, Charonne, et les événements d'octobre 61, le massacre d'Algériens dans les rues de Paris. Donc, non, l'historiographie française, en particulier depuis Benjamin Stora, La gangrène et l'oubli, s'est intéressée à la guerre d'Algérie. Là où tu as tout à fait raison, en revanche, c'est que je pense qu'au niveau local et régional, ça n'a guère été fait. Et effectivement, alors, on avait fait un colloque, je ne l'ai pas rappelé ici, dans le cadre de l'APR, lieu de mémoire, sur les mémoires des guerres, il y avait une intervention sur justement les résistances à la guerre d'Algérie dans notre région, en particulier dans le Loir-et-Cher. Il y a eu des mouvements de jeunes conscrits qui ne voulaient pas rejoindre l'Algérie. Alors, moins spectaculaire qu'à Grenoble ou à Toulon, etc. Mais tout de même, ça a tout à fait existé. Et là où je te rejoins tout à fait, c'est que c'est le moment. C'est-à-dire que les jeunes conscrits en 56-62, ils étaient nés en 36 ou 40-42. Donc, c'est le moment des témoins. C'est le moment des témoins. Et je le dis parce que, par ailleurs, on fait un projet, y compris avec un grand spectacle à Cléry-Saint-André, avec l'association d'Olivier Join, et on recueille actuellement la mémoire, alors plutôt des enfants qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, des enfants juifs en particulier, il y en a encore, mais les enfants, bien sûr les adultes ne sont plus là. Pour les témoins d'Algérie, il y en a de très nombreux. Vous savez que les associations, type FNACAR, ont encore énormément de membres. Tu as tout à fait raison, ça serait le moment de lancer des grands projets de recueil des témoignages. Tout à fait.
Merci beaucoup.
Oui. Oui. Alors, du côté allemand, alors je ne sais pas, mais tu as très probablement raison. Comment dire dans les... comment s'appelle le nouveau musée à Berlin, là, de l'histoire allemande, qui est absolument magnifique. Voilà, musée de l'histoire allemande, je crois, oui, tout simplement. Effectivement, ça prend tout à fait sa place. Et, 1871, c'est un moment évidemment extrêmement important pour l'Allemagne, puisque c'est le moment de l'unité parachevée. Mais avec, là aussi peut-être un trouble de mémoire, ou des mémoires troublées et conflictuelles, pour reprendre l'expression là, du projet européen H2020, avec le Deuxième Reich, c'est aussi une histoire qui est controversée, puisque ce n'est pas une histoire démocratique, c'est une histoire patriotique, mais pas démocratique. Mais je suppose, oui, et effectivement, il faudrait se mettre en relation avec eux, qu'il y aura des événements scientifiques organisés. Au niveau de l'État, je ne suis pas sûr, parce qu'il n'y a pas cette culture en Allemagne. La culture est beaucoup plus décentralisée au niveau des Länder. Est-ce que la Bavière, est-ce que d'autres États ont prévu des soutiens aux chercheurs là-dessus? Je ne le sais pas. Je suppose que oui. Il y a tout un aspect que je n'ai pas évoqué non plus, mais je sais qu'il faut que je sois très court. C'est les différences de perception des occupations entre occupation bavaroise, occupation prussienne. Il y a aussi, par exemple, des soldats polonais qui viennent occuper, puisque hein, la Pologne est évidemment, comme d'habitude, partagée. Donc certains sont enrôlés dans les armées des États allemands coalisés, et ils ne sont pas ressentis de la même manière, surtout pour une raison d'ailleurs religieuse. Hein. C'est-à-dire, voilà, dans les familles catholiques ou protestantes, les Bavarois n'étaient pas forcément mieux ressentis que les Prussiens. Hein. En tout cas, après ce que j'ai vu dans les témoignages dans le Loiret. Mais je n'ai pas complètement répondu à ta question, je suis désolé. Mais je pense que oui, au niveau... Alors, peut-être pas une politique mémorielle, mais en tout cas, des événements scientifiques, oui. Très certainement.
Bien, merci
à vous.